VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a accepté aujourd'hui la démission du Premier ministre Daniel Kablan Duncan et de son gouvernement, 2 mois après le début de son second mandat. Leur départ devrait permettre, selon le président Ouattara, plus d'efficacité à la tête de l'État. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a présenté sa démission juste avant le début de ce qui devait être le premier conseil des ministres de l'année. M. Ouattara a dit prendre acte de sa décision. Un remaniement ministériel était attendu depuis plusieurs semaines, selon la presse et les observateurs sur place. 175 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés à Bamako ce mardi. Selon leur premier témoignage, certains d'entre eux étaient en prison où ils disent avoir été maltraités par les autorités gabonaises. Il leur a fallu 2 semaines de route pour arriver dans la capitale malienne. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les 175 Maliens expulsés du Gabon sont revenus les mains vides. Ils sont partis de Libreville à Bamako, en passant par Calabar au Nigeria, Cotonou au Bénin et Ouagadougou au Burkina Faso. Le problème principal semble être la non-détention de la carte de séjour.
Je m'appelle Keïta Mohamed Sekou. Pour la carte de séjour, je crois saisir, c'est dans les 800 000 comme ça.
820 000.
Non, pas les moyens pour prendre ça. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire d'enlever la chemise et la ceinture, les chaussures. Comme déjà il est pris comme prisonnier, on les maltraite. Il voit 4 personnes sur un lit d'une place. C'était pas dans de bonnes conditions.
Parmi les 175 Maliens expulsés, tous n'ont pas le même problème, comme nous l'explique Bala Bagayogo, qui a passé 1 an en détention.
De un d'abord, moi je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai passé toute mon existence au Gabon. Je suis parmi eux parce que j'avais les papiers gabonais. On m'a arrêté, soi-disant que c'est faux usage de faux. On me donne un mandat de dépôt sur le dos. J'ai ma famille là-bas, mon père au Gabon, ma mère au Gabon, mes petits frères sont là-bas.
Dès leur arrivée, des dispositions ont été prises par la protection civile afin de faciliter leur prise en charge. Comme ces 175 Maliens refoulés de Libreville, d'autres Maliens sont encore dans les prisons gabonaises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RCA, les réactions se multiplient au lendemain de la contestation des résultats provisoires des élections groupées du 30 décembre par une vingtaine de candidats à la présidentielle. Parlement et gouvernement de transition appellent les contestataires au respect des voies officielles de recours. Par ailleurs, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, poursuit la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Des précisions avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Bangui, le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, a indiqué qu'il est inadmissible de remettre en cause les résultats de ces scrutins, jugés crédibles par tous les observateurs nationaux et internationaux. Il reproche aux candidats le fait de ne pas envoyer leurs représentants assister aux étapes des élections depuis le bureau de vote jusqu'à la Cour constitutionnelle de transition, en passant par l'Autorité nationale des élections. Au cours d'une entrevue dans la matinée avec une partie des candidats contestataires et 2 des favoris, le président du Parlement provisoire, Alexandre Ferdinand Guindy, a demandé aux différentes parties prenantes d'éviter de perturber le processus en cours, mais de porter leur requête devant la Cour constitutionnelle de transition. Entre-temps, l'Autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Ce mardi soir, 53% des résultats globaux ont été rendus publics. Anissé Georges Doleguillé prend le dessus avec 179 236 voix contre 178 483 voix obtenues par Faustin Archange Touadéra à la tête il y a encore quelques heures. Progression également de Martin Ziguélé qui réoccupe la 4e place avec 70 883 voix derrière Désiré Bilal Zangakolimba, 3e avec 76 109 voix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
RDC, l'ONU envisage de réduire une nouvelle fois ses effectifs en République démocratique du Congo. Cette proposition, motivée par les progrès réalisés dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est du pays, sera discutée la semaine prochaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de détails avec Nanit Talani.
C'est la 2e fois en 2 ans que l'ONU va réduire ses effectifs en RDC. Cette fois, 17 000 casques bleus vont quitter le territoire congolais compte tenu des progrès accomplis dans l'élaboration d'une stratégie conjointe de sortie et la réduction de la menace que constituent les groupes armés. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime que cette réduction ne compromet pas la capacité de la MONUSCO de s'acquitter de son mandat de protéger les civils, notamment par la neutralisation des groupes armés. Ces réductions sur le terrain ne changent pas le plafond des effectifs fixé à 21 000 soldats et policiers, si bien que l'ONU peut réaugmenter ses effectifs en cas de besoin. Ban Ki-moon propose aussi de réorienter davantage la MONUSCO vers des tâches de police dans la perspective des élections de novembre prochain. Il se dit profondément troublé par la montée des tensions politiques dans le contexte du processus électoral, par l'augmentation du nombre d'incidents en matière de sécurité et par les violations des droits de l'homme qui risquent de déboucher sur des troubles civils et des violences généralisées. Par conséquent, Ban Ki-moon encourage le président Joseph Kabila à engager un dialogue national visant à instaurer un consensus sur le processus électoral en cours.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le dialogue inter-Burundi est dans l'impasse. Les pourparlers visant à dénouer la grave crise que traverse le Burundi ne reprendront pas Arusha en Tanzanie aujourd'hui comme prévu. Le gouvernement du président Pierre Nkurunziza affirme que la date du 6 janvier n'a pas été consensuelle et que par conséquent, il ne sera pas représenté à Arusha. On écoute Jean Kouabeko, proche du CNDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
L'organisation n'est pas bonne, n'est pas claire. Il n'y a pas de date fixe pour entamer le dialogue à Arusha. Il n'y a pas de préparation. Même la logistique n'a pas été organisée. C'est pourquoi toutes les parties prenantes au dialogue ne vont pas participer. Même le facilitateur, son Excellence Yoweri Museveni, ne va pas se rendre à Arusha. Parce que lui-même sait que la date n'a pas été consensuelle.
Pour sa part, l'opposition burundaise a indiqué que les discussions ne pouvaient pas concrètement reprendre ce mercredi, disant n'avoir aucune information sur une nouvelle date. Tassien Siromona du parti Uprona affirme ne pas être surpris par le retrait du gouvernement.
On avait déjà senti la chose venir. Maintenant que c'est officiel, nous déplorons bien sûr la démarche du gouvernement de facto de Bujumbura, qui ne nous surprend pas d'ailleurs parce qu'il n'a nullement pas affiché la volonté de négocier. Seulement, nous lançons un appel vibrant à la médiation parce que maintenant, il ne faut pas que la médiation se comporte comme si elle doit programmer les dates sur injonction du gouvernement parce que le gouvernement est une des parties en conflit. D'ailleurs, c'est la cause de tous les maux qui s'écoulent au Burundi. Donc la médiation doit prendre la chose au sérieux et considérer que tout jour qui passe est un jour de plus de malheur pour les Burundais parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à être enlevés, les gens continuent à être torturés, à être emprisonnés sans aucune raison valable.
Tassien Siromona du parti Uprona au Burundi. Corne de l'Afrique maintenant, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a dénoncé mardi un accroissement de la répression contre l'opposition à Djibouti. Elle réclame une commission d'enquête pour éclaircir les circonstances de ce qu'elle appelle le massacre du 21 décembre qui a fait selon elle 27 morts. On écoute Florent Gel, responsable du bureau Afrique de la FIDH.
Le président Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête de l'État depuis 16 ans, veut un quatrième mandat, il veut passer en force. Et le dialogue politique qui avait été noué avec un accord cadre le 30 décembre 2014 est aujourd'hui lettre morte. Et le pouvoir veut réprimer son opposition pour être seul en lice pour l'élection présidentielle. On demande un processus électoral crédible, pluraliste et transparent qui permettent aux partis de la majorité présidentielle et aux partis de l'opposition de concourir dans les mêmes règles et que chacun ait la possibilité de gagner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Djibouti dans les élections précédentes.
Florent Gel, responsable du bureau Afrique de la FIDH. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence à New York à propos de l'annonce par la Corée du Nord de nouveaux essais nucléaires. La réunion a été demandée par les États-Unis et le Japon et elle prendra la forme de consultations à huis clos entre les 15 pays membres, a précisé à l'AFP la porte-parole de la mission américaine auprès de l'ONU, Hagar Tchemali. La Corée du Nord a annoncé ce mercredi avoir mené un quatrième essai nucléaire, le premier avec une bombe à hydrogène. Mais les États-Unis ne sont pas en mesure de confirmer pour le moment qu'un essai a été bien mené, a souligné la porte-parole américaine. Elle ajoute cependant que Washington condamne toute violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et appelle de nouveau la Corée du Nord à respecter ses obligations internationales et ses engagements. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.